C'est un privilège pour moi d'apporter la parole aujourd'hui. Et ça commence fort ce matin parce que le titre de mon message, c'est « Aux armes, citoyens ». Aux armes, citoyens, ça fait fort, hein? Et c'est la première phrase, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première phrase de la Marseillaise. On a quelques Français dans la salle ici. La Marseillaise, qui est l'hymne national de la France et qui est considérée comme le symbole de la Révolution française, composée en 1792 par un officier, justement, de l'armée française. Et j'ai choisi quelques phrases, les phrases les plus sanglantes à vous lire ce matin en commençant. Ça commence fort, je vous le dis. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Amen. Non, on n'entend pas d'amen ce matin. L'étendard sanglant est levé, tout est soldat pour vous combattre. S'il tombe, nos jeunes héros, la terre en produit de nouveau. Contre vous, tout prêt à se battre. Pour vous rassurer, ou peut-être que certains vont être déçus, mais je veux vous rassurer, non, le message d'aujourd'hui ne porte pas sur l'appel à prendre les armes pour l'indépendance du Québec. Non, ne faites pas ça. Mais en fait, nous allons découvrir à quoi ressemble le combat dans la Bible. Parce que oui, la Bible, peut-être certains même sont surpris, mais la Bible nous parle d'un combat. Elle nous dit que nous sommes en guerre. La Bible nous appelle à prendre les armes, mais vous allez voir que le combat n'est pas le même que celui du monde, évidemment. Nous allons découvrir quelles sont les armes des chrétiens, qui est le véritable adversaire dans cette guerre et à qui appartient la victoire et aussi le combat. Et on va lire notre passage principal, se trouve dans Josué chapitre 1. Donc, et pour vous donner un petit peu le contexte, c'est le début donc du livre de Josué, comme vous l'avez sans doute remarqué. Et donc, on a eu aussi un message avec pasteur André il y a quelques semaines sur Moïse qui avait été appelé à faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et là, en fait, Josué, c'était son protégé, donc il l'a accompagné dans tout son ministère. Et là, on est au moment où Moïse est décédé et Josué est appelé à prendre possession avec le peuple de la terre promise, un territoire que Dieu avait promis en sortant d'Égypte pour que le peuple d'Israël puisse habiter. Donc, un peu, ça, c'est le contexte. Donc, on est dans Josué, chapitre 1, à partir du verset 1. Je vous le lis. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, et là Dieu répète une deuxième fois, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné une troisième fois, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi où que tu ailles. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions quand dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Yes, on va prier ensemble avant de plonger dans l'étude de ce texte. Seigneur Jésus, on te prie d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre cœur à ta parole. Seigneur, on veut être réceptif à ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui et viens nous apprendre à combattre selon ton royaume, Seigneur. Viens nous montrer quelle est cette guerre et viens nous aider vraiment à ce qu'on puisse entrer plus dans ta présence, Seigneur. Je te prie pour que chaque personne ici puisse rentrer dans une nouvelle saison dans ta présence, Seigneur. Dans ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, à partir de ce texte et de d'autres passages bibliques, nous allons découvrir ensemble les cinq commandements militaires, je les ai appelés comme ça, les cinq commandements militaires que la Bible nous enseigne. J'entends un petit « ouh » en arrière de moi. Le premier ordre que Dieu a donné à Josué, c'est « lève-toi ». Lève-toi. Verset 2. Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi. Passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. En d'autres termes, Dieu dit Moïse est mort, maintenant c'est toi que je choisis, Josué, pour diriger le peuple. Lève-toi avec tout ce peuple et fais entrer le peuple dans le pays promis. Et j'aimerais qu'on regarde ce à quoi le peuple s'attendait dans Josué, leur leader. Après que Josué ait demandé de se préparer à partir à la conquête du pays, voici ce que le peuple lui répond. Donc, juste après, dans la suite de notre passage, au verset 16 et 17, voici ce qu'ils disent. Jésus dit, il a rassemblé tout le monde, il a dit « Let's go, on part à la guerre ». Il a obéi à ce que… Josué? J'ai dit Jésus? Josué. On part à la guerre, on est parti, et puis, on part à la guerre, et puis voici ce que le peuple va répondre. Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement. » Et tous les pasteurs disent « Amen. » Comme nous avons obéi à Moïse. « Que l'Éternel, ton Dieu, veuille seulement être avec toi, comme il a été avec Moïse. » Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, ils vont encore plus loin, qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras, sera puni de mort. Soyez sans crainte, on ne vous punira pas de mort aujourd'hui. Mais seulement fortifie-toi et prends courage. Quelles sont les conditions de leur obéissance? Ils vont dire, nous t'obéirons entièrement. C'est fou là, l'engagement qu'ils prennent. Seulement que ton Dieu veuille être avec toi comme il l'a été avec Moïse. Seulement fortifie-toi et prends courage. C'est fou parce que le peuple répète exactement ce que Dieu venait de dire à Moïse pour une quatrième fois. Le plus grand désir du peuple, c'est que Josué obéisse à Dieu. C'est que Josué se fortifie dans le Seigneur, qu'il prenne courage et que Dieu soit avec lui. Et c'est exactement le souvenir aussi qu'ils ont de Moïse, leur leader, que l'Éternel, ton Dieu, veut seulement être avec toi comme il a été avec Moïse. Ce dont ils se souviennent de Moïse, c'est pas s'il avait un beau manteau. Peut-être qu'il y avait un beau manteau, mais c'est pas de ça qu'ils se souviennent. C'est pas s'il était charismatique ou non. Même, il y avait de la difficulté à parler, de toute façon. Et c'est pas non plus qu'il avait fait 10 miracles incroyables avec les 10 plaies d'Égypte, qu'il les avait sortis d'Égypte non plus. Ce dont ils se souviennent, c'est que Dieu était avec lui. Et c'est ce que le peuple cherche comme première caractéristique dans Josué, leur nouveau leader. Ce dont nous devrions nous préoccuper premièrement pour nos pasteurs et leaders, c'est pas qu'ils s'habillent bien, ils ont le droit de s'habiller bien. Ou mal, s'ils racontent des histoires intéressantes, s'ils parlent trop vite, s'ils prêchent trop longtemps, s'ils sont trop vieux, trop jeunes, pas assez disponibles, trop distants, trop sensibles, name it. Il y en a tellement des caractéristiques pastorales qu'on pourrait écrire ici. Ce que tu veux de ton pasteur ou de tes leaders, c'est d'abord et avant tout qu'ils soient proches de Dieu. C'est leur priorité numéro un et ça devrait être notre préoccupation numéro un en tant que peuple pour nos leaders. Et peut-être que certains regardent à Josué, à Moïse, à l'apôtre Paul, aux pasteurs, on pourrait dire, d'aujourd'hui, et ils se disent que ben, ça n'a rien à voir avec eux, en fait, ce message-là, ça ne les touche pas nécessairement. C'est peut-être ton cas, peut-être que tu ne réalises pas, en fait, ta responsabilité à toi aussi de te lever. Parce que sachez que nous sommes tous des leaders à certains degrés. Tous, à certains niveaux. Nous avons tous une influence sur les autres. Des gens nous suivent sur Facebook. On a une influence, mine de rien. Nous sommes un modèle pour les personnes autour de nous, pour tes enfants, pour tes collègues, pour ton mari, pour ta femme, pour tes employés, pour tes élèves, pour tes amis, pour ta famille, pour ton entourage. Tu as un cercle d'influence. Et voici la chose la plus importante pour toi en tant que leader, en tant que modèle chrétien. Ce que tes enfants, en fait, ton mari, tes amis désirent le plus au fond d'eux-mêmes, ils ne le savent même pas, mais ce dont ils ont besoin le plus et ce qu'ils désirent le plus pour toi, c'est que tu sois proche de Dieu. Ce dont les autres ont le plus besoin autour de toi, c'est que tu sois proche de Dieu. Ta relation avec Dieu, c'est pas seulement toi qui en as besoin, mais c'est tout ton entourage. Les gens que tu influences ont besoin que tu sois proche de Dieu. Et donc, la première chose que Dieu te demande de faire aujourd'hui, c'est lève-toi. Lève-toi. Réalise ton influence et l'importance de te tenir proche de Dieu. Demande-toi si aujourd'hui, tu as peut-être besoin de remettre de l'ordre dans tes priorités parce que la chose la plus importante dans ta vie, c'est ta relation avec Dieu. Tout le reste va découler de ça. C'est ce qu'il faut en plus, c'est qui va nous apporter le succès si on le place en priorité. Et c'est pas ça que la société nous dit, mais c'est ça la vérité de la parole. Lève-toi pour Dieu aujourd'hui, pour toi-même et pour les autres que tu influences. Amen? Yes? Le deuxième commandement militaire que m'inspirait ce texte, c'est en position. En position. Quand le commandant demande aux soldats de se mettre en position, ils doivent se placer en ordre avec une attitude, une certaine attitude, une attitude de courage. C'est pas le moment de se défiler, d'avoir peur, d'avoir des doutes, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de retour en arrière. On se prépare à combattre, on se place en position. Et on peut voir à quel point ça peut être impressionnant quand des soldats se mettent toutes cordées en position avec cette attitude impressionnante. C'est vraiment magnifique. Mais si toi, tu perds un peu cette attitude d'être en position, voici ce que ça peut donner. Ça donne un autre... notre regard est pas mal... accroché par ce monsieur qui semble s'ennuyer fortement. Ou si on regarde l'autre aussi, l'autre photo, bon, en position, il a eu vraiment peur. Ou très chaud avec sa grosse capine. Mais bref, aussi, il faudrait intervenir éventuellement. Les gens restent en position, mais bon, s'il veut pas qu'il y ait mort d'homme, il faudrait peut-être éventuellement intervenir. Mais bref, on voit ici à quel point ça paraît quand un des soldats perd la position. Devant la crainte des ennemis et d'un pays à conquérir, Dieu a dit à Josué de se placer en position avec une certaine attitude. Josué 1, 9 nous dit « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. » Où que tu ailles. Et Dieu va répéter ces phrases-là trois fois et le peuple va répéter une quatrième fois encore. OK, c'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Fortifie-toi et prends courage. Et l'apôtre Paul a également écrit dans Éphésiens 6, 10, l'autre passage qu'on va regarder aussi aujourd'hui. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force, toute puissance. » Puissante. Dieu nous dit à chacun d'entre nous aujourd'hui, « Fortifie-toi. » Prends courage, n'aie pas peur, car je suis avec toi où que tu ailles. La présence du Dieu de l'univers à nos côtés à tous les jours, où que nous allions, devrait nous rassurer et nous permettre de passer à travers n'importe quelle épreuve. Et devant l'épreuve, c'est normal que tu te sentes lasse, comme notre ami qui baillait ici. C'est peut-être normal aussi que tu te sentes découragé, en colère ou triste. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans cet état d'esprit-là. C'est normal que tu vives ces émotions-là, mais tu n'es pas obligé d'en rester là. Il ne veut pas que tu restes dans la position de la victime, mais que tu te lèves et que tu te mettes en position avec courage et force. Au lieu de la peur, du découragement, de la lassitude, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé par ton défi, par la maladie, par les conflits, par les changements climatiques, par ton patron, par ton avenir, pour ta réputation, par la mort, qui est vraiment une des peurs les plus grandes pour l'être humain. Mais au contraire, fortifie-toi, prends courage et rappelle-toi que Dieu est avec toi à tous les jours où que tu ailles. Et le courage, bibliquement, c'est puiser en Dieu la force et la détermination nécessaires pour affronter une situation qui est difficile, effrayante ou peut-être incertaine. Ça implique de surmonter la peur, le doute, l'appréhension, de faire preuve de résilience, de bravoure, de confiance pour faire face à un défi. Le courage, en fait, c'est une décision. La décision de ne pas laisser la peur ou l'insécurité nous paralyser. Il y a un moment donné où tu dois te ressaisir et faire preuve de ce que j'appelle le « oomph ». On le voit à l'écran, il est écrit. « Oomph ». Faites-le avec moi. « Oomph ». C'est beau, hein? Tous en cœur, le « oomph », il est vraiment puissant. Le oomph, ce n'est pas un terme allemand, un terme militaire allemand, même ça peut ressembler à ça. Mais non, c'est un onomatopée, une onomatopée, c'est un son qui me fait penser au courage. C'est ça le courage, c'est dur à décrire le courage. On va chercher en nous, on se sent découragé, on se sent las, on voit nos situations qui ne vont pas bien, mais à un moment donné, si on fait juste regarder ça, on se décourage, puis on peut juste abandonner le combat. Alors que Dieu, il dit, non, prends courage, prends force, humph, et on y va, on se met en position. OK? Donc, la prochaine fois, le courage, c'est prendre la décision de te ressaisir, de te fortifier malgré le mur qui se reste devant toi. La prochaine fois que tu te sens découragé par un défi, pense au humph. OK? Fortifie-toi et prends courage. Amen! Est-ce que je peux entendre un humph pour le humph? Vous êtes bon. Mais le courage, et je vais en venir un petit peu plus loin avec ça, mais le courage ne va pas changer tes circonstances, mais il va te permettre d'avancer malgré tes circonstances qui vont être difficiles, par exemple. Les seules fois où j'ai entendu des ordres militaires donnés pour de vrai là, par des combattants, ce n'est pas parce que j'ai participé à des combats, donc je n'ai pas fait partie de l'armée il y a 15 ans, non, mais c'est lors de cérémonies ou des parades. Peut-être que vous avez déjà assisté à des parades militaires. Et à chaque fois, ils vont dire à mon commandement, présentez armes. OK? Présentez armes. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu justement dans une parade. Moi, c'est là que j'ai entendu ça. Mais j'ai appris en fait que justement, cet ordre-là était donné seulement dans les parades, dans les occasions officielles. C'est pas quelque chose qui est utilisé pour le combat. C'est pas un ordre qui est donné pour le combat, c'est vraiment juste pour des parades et ce genre de choses-là. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, quand j'ai appris ça, je me suis dit à quel point ça symbolisait vraiment bien l'ordre que Dieu nous demande. Parce qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas l'intention de nous servir de fusil. On présente nos armes, mais on n'a pas l'intention de se servir de nos fusils. Ce n'est pas ce type d'arme que la Bible nous demande de prendre, mais nous avons quand même des armes à présenter, à déployer. On va les découvrir ensemble dans les prochaines minutes. Et juste faire une parenthèse, je ne peux pas vous cacher que le peuple d'Israël, lui, a utilisé des vraies armes pour combattre les habitants du pays promis. Certains sont choqués en lisant l'Ancien Testament de voir les guerres qui ont pris place. Mais je veux juste nous rappeler pourquoi est-ce que ça a eu lieu, ça. D'abord et avant tout, la grâce de Dieu, c'était de se choisir un peuple. Parce que, ultimement, tous les peuples mériteraient le jugement de Dieu. Et donc, la mort, le péché est entré dans le monde et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la grâce de Dieu, c'était de se choisir un peuple et pour qu'il soit, en fait, la représentation de sa sainteté. Et c'est pour cette raison aussi qu'il prenait les armes, en fait, des armes réelles pour aussi juger, chasser et détruire les peuples qui étaient pécheurs pour s'emparer, entre autres, d'un pays qui était physique. Mais l'Ancien Testament nous montre que le peuple d'Israël était, en fait, pas meilleur qu'un autre peuple. Hein, on l'a vu, c'est pour ça que Jésus est venu sauver l'humanité entière, parce que c'était pas une question, c'est une question de nature humaine, et Jésus est venu pour cette raison-là. Et Jésus, après, nous a donc enseigné à ne pas prendre d'armes physiques, parce que le royaume de Dieu est d'abord et avant tout spirituel. C'est une des différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais la chose qui demeure, même dans l'Ancien Testament, c'est que la victoire a toujours dépendu de Dieu. Il y a même une histoire où ils étaient 300 avec Gédéon. Certains connaissent cette histoire-là. 300 à combattre contre des milliers, ça fait juste pas de sens. Humainement, c'est pas logique qu'ils puissent battre ces personnes-là. Ils ont remporté la victoire sur des milliers de soldats parce que dans l'Ancien Testament aussi, la victoire physique dépendait du combat spirituel. Fermez la parenthèse. Et voici ce que Dieu dit à Josué au verset 7 et 8, justement, on voit que Dieu parle d'une arme spirituelle, même à Josué, même dans l'Ancien Testament. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en mangeant de la crème glacée. Bon, ça pourrait, pourquoi pas? On pourrait aussi, là, éventuellement, mais non. Ici, Dieu il dit, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quelqu'un veut réussir dans la vie? Amen. Mais ce que Dieu il dit, c'est « Rapproche-toi de la parole et suis la parole de Dieu. » L'arme que Dieu prescrit ici à Josué, c'est la parole. Et l'apôtre Paul aussi va décrire toute une série d'armes spirituelles dans Éphésiens. C'est un passage que plusieurs connaissent bien, dans Éphésiens 6, 13 à 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, vous voyez, c'est le même genre de choses que l'apôtre Paul demande de faire. Courage, tiens ferme, sois fortifié. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. On voit ici le contraste, en plus, l'évangile de paix avec tout l'aspect guerrier, mais non, c'est l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Quelles sont les armes de Dieu? Est-ce que c'est la violence? La colère, les arguments, les manifestations devant le Parlement, les expériences mystiques, non. Et si tu es un chrétien depuis longtemps, même les armes qu'on lit ici, les armes de Dieu, peuvent même te paraître banales tellement ils font partie de nos célébrations, de notre liturgie, de nos réunions, de nos enseignements. Les armes de Dieu sont la vérité, la justice, le zèle pour annoncer l'évangile de paix, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. Certains même pourraient être déçus. Pasteur Élie, c'est pas quelque chose de plus intense là, pour nous, de plus zélé que ces affaires-là. La vérité, la justice, la foi, le salut, la prière, la Bible, me semble que c'est des choses de base pour nous. Mais détrompe-toi, en fait, ces armes sont les plus puissantes sur terre. Ce sont des armes de destruction massive. Nous avons dans nos mains tout ce dont nous avons besoin pour combattre. Et la parole nous dit dans 2 Corinthiens 10, 3 à 4, un passage que j'aime vraiment beaucoup. « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines et elles ne sont pas non plus banales, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. » Yes! Et quelques chapitres plus loin, dans Josué au chapitre 6, est venu le moment d'entrer pour la première fois en combat avec le peuple, donc sur la terre promise. Donc, la première bataille qui a eu lieu, c'était la bataille de Jéricho. Peut-être que vous connaissez cette histoire aussi. Et qu'est-ce que Dieu a fait lors de cette bataille? Dieu a renversé la forteresse. Il a renversé une muraille, la muraille qui entourait la ville de Jéricho. On voit ici la ville de Jéricho, à quoi elle aurait pu ressembler. C'était une ville fortifiée. Et voici ce que Dieu a demandé. Comment Dieu a demandé d'abattre la muraille? Est-ce que c'est avec des canons? Est-ce que c'est... Ben, y avait-tu des canons dans le temps? Je pense pas. Bref, il n'y avait pas de canon, pas de poudre à canon, tout le kit. Bref, mais c'était pas avec des armes. On va lire de quelle façon est-ce que Dieu voulait que la muraille tombe. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, voici la technique de Dieu. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'Arche de l'Alliance. » Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque chacun devant soi. Et c'est exactement ce que le peuple, Josué a fait, exactement ce que Dieu avait demandé. La muraille est tombée par la puissance de Dieu, parce que les armes que les Israélites ont utilisées étaient la louange. Des prêtres qui sonnent la trompette. Pas parce que la trompette est plus forte qu'un canon, même si ça n'existait pas dans ce temps-là, mais parce que les armes spirituelles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Amen! Yes! Et je connais pas tes forteresses, mais je sais que la vérité est une arme puissante pour faire taire toutes les voix qu'on entend, par exemple, aujourd'hui pour essayer de définir la famille, la sexualité. Je sais que la justice pour venir en aide aux plus vulnérables est puissante pour renverser les conséquences du péché dans le monde et apporter la restauration à ceux qui en ont besoin. Je sais que le zèle pour annoncer l'Évangile est puissant parce qu'il ramène des gens qui étaient morts à la vie. Je sais que la foi peut t'aider à persévérer dans la maladie. Je sais que le salut permet de faire régner Jésus sur nos vies, nous donner une nouvelle identité d'enfant de Dieu et nous apporter l'espérance de la vie éternelle. Je sais que la parole de Dieu est une nourriture pour mon âme à tous les jours. Je sais que la prière m'aide à vivre tous les jours par la puissance du Saint-Esprit. Les armes de Dieu sont puissantes pour renverser des forteresses. Alors, emparons-nous-en. Prenons-les. Plus concrètement, ça veut dire quoi, t'emparer de ces armes-là? Inscris-toi à ce cours d'été sur la lecture de la Bible. Petite plug publicitaire. Écoute les cafés matinaux de Pasteur Claude en ce moment qui passent à travers tous les évangiles. Écoute davantage de la louange. Lis ta Bible à tous les jours comme une nourriture. Prie Jésus quand tu te sens découragé au lieu d'aller parler, d'en parler à quelqu'un. Tu peux en parler à quelqu'un après éventuellement aussi, mais va d'abord, le réflexe d'aller voir Jésus dans sa présence. Baigne dans la présence de Dieu parce que le vrai combat, il est spirituel. La vraie nourriture pour ton âme, c'est la présence de Dieu. Et la société, elle ne te dit pas ça, en fait. Elle nous dit que le succès, c'est dans nos conquêtes amoureuses, dans nos réseaux sociaux, dans notre carrière, dans notre compte en banque. Mais Dieu dit que la seule façon de réussir dans nos entreprises comme Josué, c'est de s'attacher à sa parole et de marcher dans ses voies selon sa volonté. Le passage dans Éphésiens commençait comme ceci au verset 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les forces, contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Paul donne ici deux raisons de prendre les armes de Dieu. La première, c'est afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Ces versets nous montrent qui est notre véritable adversaire, en fait. Mais le diable, lui, qui est appelé en passant le père du mensonge dans la Bible, il veut te faire croire que l'adversaire, c'est quelqu'un d'autre. Par exemple, il voudrait te faire croire que les adversaires, l'adversaire, c'est tes circonstances et que si elles changent, tout va bien aller pour toi et tu vas trouver le bonheur. Mais on sait, comme toi et moi, que en fait, le bonheur ne se trouve pas dans nos circonstances qui sont bonnes parce qu'on voit les personnes les plus riches et célèbres avoir envie de s'enlever la vie. La réalité, c'est que la majorité du temps, en prenant les armes spirituelles, ce n'est pas nos circonstances qui changent. Mais c'est notre cœur et nos pensées. Alors que tu es découragé, bien, tu vas trouver le courage dans la prière. Alors que tu sentais que tu étais sur le point d'abandonner, Dieu va renouveler ta foi dans sa présence. Alors que tu voulais te laisser emporter peut-être par la tentation du péché, la parole de Dieu va t'éclairer sur le droit chemin. La deuxième raison justement pour laquelle l'apôtre Paul nous demande de prendre les armes, c'est justement à cause de ça. Prenez les armes afin de pouvoir résister, quand ça va bien, c'est facile de résister, mais non, il dit afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu prends les armes que tes circonstances vont nécessairement changer, mais c'est justement parce que les circonstances sont difficiles et ne changent pas nécessairement que tu dois prendre les armes et persévérer. Le diable aussi voudrait te faire croire que ton adversaire, c'est les autres. Ton mari, ta femme, ça, c'est facile de penser ça, hein, parce que là, on va essayer de changer la personne, puis voyons, c'est toi le problème, etc. Ton collègue ou un des pires, ton frère ou ta sœur dans l'église, tu vas penser que c'est cette personne-là, ton ennemi. Et si tu embarques dans ce mensonge, bien, c'est là que la division, les conflits prennent place et c'est exactement ce que le diable veut. C'est exactement ce que le diable veut. Le diable veut même aussi parfois te faire croire que l'ennemi, c'est Dieu, en fait, Dieu lui-même. Et là, on commence à rentrer dans un discours de pourquoi est-ce que Dieu, tu permets ça? Pourquoi est-ce que tu me fais subir ça? C'est injuste, blablabla, etc., etc. Pourquoi? Si tu oublies qui est ton adversaire, tu vas pas utiliser les bonnes armes pour te battre, en fait. Si ton ennemi, c'est les autres, ben, tu vas te battre à coups d'arguments, de disputes. Mais le vrai ennemi, c'est le diable, et les armes pour le vaincre sont la vérité, la justice, l'évangile, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. Il faut aussi se rappeler à qui appartient le combat. Okay, je veux souligner ici que l'apôtre Paul, et c'est la première fois que je remarque ça dans le texte, il nous dit seulement de nous revêtir des armes, de prendre les armes. Vous avez peut-être remarqué, il n'est pas écrit « battez-vous » ou « combattez », mais « revêtez les armes ». Comme si en se levant, en présentant, en s'emparant de nos armes, en faisant démonstration de force devant l'ennemi, Dieu se bat pour nous et remporte la victoire sur notre adversaire. Parce qu'en passant, Jésus a déjà remporté la victoire sur toute chose. Yes? En d'autres termes, on est appelé à faire la guerre froide. Okay, vous vous rappelez peut-être, pendant la guerre froide, qu'est-ce que les nations faisaient? Bien, ils s'armaient. Ils faisaient démonstration de force, mais il n'y a pas un coup de feu, un coup de, une bombe qui a été envoyée durant la guerre froide. Mais les nations s'armaient, ils présentaient leurs armes de cette façon-là. Nous, notre responsabilité, c'est de tenir les armes, de se placer en position de combat, de se lever. Et Dieu fait le reste. Fait la guerre froide ici sur terre. Prends les armes spirituelles et laisse Dieu remporter le combat dans les cieux. Le quatrième commandement, et les deux derniers sont plus courts, commandement que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est maintenez vos positions. Maintenez vos positions. Moi, c'est quelque chose que j'ai entendu dans les films et dans le genre de scène où la guerre commence et là, l'ennemi se met à l'assaut. Les soldats sont placés en position. L'ennemi se met à l'assaut. Les bombes commencent à fuser. On voit l'ennemi qui arrive. C'est le moment le plus effrayant de tout le film. Et là, tu entends le commandant dire « Gardez vos positions! » Parce que c'est là, justement, le moment qui fait le plus peur, juste avant de commencer le combat, de se mettre à l'attaque. C'est justement quand le combat fait rage que c'est le plus difficile de maintenir nos positions, mais c'est là que c'est le plus important de maintenir ta position avec tes armes. Et je m'adresse à ceux peut-être qui prient pour certaines choses depuis longtemps, je t'encourage à persévérer. Juste à persévérer. Persévère. C'est bien d'avoir le courage de prendre les armes, chaque personne est appelée à le faire, mais ça prend aussi de la force pour maintenir la position quand les réponses tardent, que les défis continuent, que la situation n'a pas l'air de s'améliorer. Et après avoir énuméré justement toutes les armes du chrétien, l'apôtre Paul va conclure de cette façon-là dans Éphésiens 6, 18. « Veillez à cela avec une entière persévérance. » Avec une entière persévérance. Persévère. Maintiens ta position. Ça a l'air dur, c'est encore plus difficile. Ça va peut-être de plus en plus mal, mais je t'encourage à maintenir ta position. Maintiens ta position. Et tu vas voir Dieu te renouveler. Tu vas voir Dieu renouveler ta force. Tu vas voir Dieu percer dans ce combat-là. Et finalement, le cinquième commandement pour nous, c'est le repos. Hein, quand le commandant dit « repos, soldat ». Même si les soldats doivent toujours rester vigilants dans la position du repos, ils sont autorisés à se détendre, à se décontracter. Et donc, après que nous nous soyons levés, que nous nous soyons mis en position, que nous ayons présenté nos armes, qu'on ait maintenu nos positions, nous pouvons nous reposer dans la confiance en Dieu, sachant que le combat lui appartient. Isaïe 30, 15 à 16. Voici ce que ça nous dit. C'est le prophète Isaïe qui parle au peuple d'Israël. « Voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais la suite nous dit « Mais vous ne l'avez pas voulu. Moi, c'est ce que je voulais pour vous. C'est ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. » Mais vous, vous ne l'avez pas voulu, le peuple d'Israël. Vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous nous enfuirons à cheval. Nous monterons des chevaux rapides. En d'autres termes, le peuple d'Israël avait mis sa force et sa confiance dans ses chevaux de guerre, dans ses propres forces. Mais ce que Dieu voulait, c'est qu'ils mettent leur confiance en lui. Aujourd'hui, les chevaux, ça peut être notre argent, ça peut être notre carrière, nos propres capacités, nos propres forces, notre éducation. Mais ce que Dieu veut que tu fasses, c'est de mettre toute ta confiance en lui en prenant les armes spirituelles. Dieu rend tout ça disponible pour nous. Alors, posons-nous la question, est-ce qu'il va dire de nous, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu? Est-ce que Dieu va dire ça de nous? Ou est-ce qu'il va voir un peuple qui retourne à Dieu et qui se bat dans la présence de Dieu? Moi, j'ai envie de la deuxième. J'ai envie de la deuxième option. Tu as un choix à faire aujourd'hui. Mettre ta confiance en autre chose que Dieu, ça peut être n'importe quoi. Ou retourner vers lui, dans la prière, dans la parole, dans la louange, dans sa présence. Et je veux terminer avec cette chanson-là. Je veux vous lire un extrait d'une chanson qu'on chante assez régulièrement ici à l'église. C'est une chanson qui a été écrite par Phil Wickham et qui s'intitule « La bataille t'appartient ». Je vous en lis quelques phrases. « Ô Dieu, la bataille t'appartient. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. » Et ce passage-là, en fait, a été écrit, inspiré du passage dans cette chanson-là a été inspirée du passage dans 2 Chroniques 20. C'est une histoire qui a eu lieu environ 5 siècles après Josué. C'est une histoire qui parle de Josaphat, qui est le roi d'Israël à ce moment-là, 500 ans après Josué, et qui lui aussi fait face à un combat, qui fait face à un peuple à combattre encore une fois. Et voici comment ils ont remporté la victoire. On va lire ce passage-là ensemble, ça apparaîtra pas à l'écran. Le verset 12 nous dit, et c'est Josaphat qui parle, il dit « Nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. » Mais nos yeux sont sur toi. » Au verset 15, « Voici ce que vous dit l'Éternel. » Et là, Dieu vient répondre avec cette parole-là. « N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Encore le même message qui est dit à Josué et qui nous dit aujourd'hui. Au verset 20, « Le lendemain, ils obéissent, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, en accord avec le peuple, Josaphat va encore plus loin que ce que Dieu avait demandé. Il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Et voici comment le peuple s'est senti par la suite au verset 27. « Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, avec Josaphat à leur tête, repartirent joyeux à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. » Wow! Les premiers qui ont été envoyés sur le champ de bataille, c'était les musiciens. Les musiciens. Et c'est avec cette arme qu'ils ont remporté la victoire sur leur ennemi. Et je connais pas tes défis, je connais pas tes murailles, les forteresses qui se dressent devant toi, mais je sais que l'arme la plus puissante, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Je connais pas non plus ton cœur, ce dans quoi tu mets ta confiance ou tes priorités. Mais je sais une chose, c'est que ta relation avec ton Créateur, le Dieu de l'univers, c'est ce qui importe le plus dans la vie. Certains ont besoin de retourner à Dieu. D'autres, d'y aller peut-être pour la première fois parce que tu n'as jamais pris cette décision encore de suivre Jésus. Ma prière, c'est que nous soyons un peuple qui trouve sa force dans le calme et la confiance dans la présence de Dieu. C'est ma prière pour nous aujourd'hui. C'est ma prière qu'on puisse trouver notre force dans la présence de Dieu de toutes les façons différentes. La louange, la prière, toutes les armes qui ont été dites, le salut dans notre identité en Christ, etc., etc., etc. C'est ma prière que nous soyons un peuple qui recherche la présence de Dieu. Est-ce que vous avez envie de la présence de Dieu? Amen. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons commencer le combat dès maintenant, dès ce matin. On peut se lever ensemble, puis nous allons chanter cette chanson. Commençons à combattre dès maintenant. Dès maintenant, et prends la décision de peut-être replacer tes priorités. Prends la décision de mettre ta relation avec Dieu numéro un, et tu vas voir, tu vas réussir. Tu vas réussir. C'est ce que Dieu nous promet. Chantons ensemble.